C'est la deuxième séance du colloque qui recommence. Je prends provisoirement la présidence et je donne la parole à Jean-Marie Tarascon. Vous l'avez entendu, il est le porteur du projet Avenir commun durable et on lui a demandé de nous parler du temps d'attente par rapport à l'innovation technologique. Vous savez qu'il y a un problème parce que la recherche doit être libre, mais il y a aussi une attente sociale par rapport aux retombées dans l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons entendre d'un point de vue très personnel, prophétie. Quelle est l'expérience d'un grand chercheur par rapport au délai entre la découverte et l'application? Et donc, je lui donne la parole.
Ok. Bonjour à tous. Merci Dario. C'est pour moi un grand plaisir d'intervenir dans ce colloque. Avenir, quel temps d'attente? Et d'autant plus que je suis un impatient né. D'où cette invitation va me permettre de me donner l'opportunité finalement, de vous présenter ce qu'est une maturation technologique, comment ça se passe, et effectivement les différentes attentes, et bien sûr, comment on va du produit ou de l'idée au produit. Alors, pour structurer cette présentation, eh bien, je vais avoir trois parties. Dans la première partie, je vais évoquer de nouvelles technologies et essayer de relier technologie à innovation, invention et découverte. Je vous donnerai des définitions, je vous donnerai des exemples, et je dirais, après ce tour des raisons, eh bien, je prendrai des cas plus particuliers sur des technologies, des expériences personnelles que j'ai vécues, notamment dans le domaine des accumulateurs, et je prendrai quatre exemples. Ces quatre exemples, ils sont pris, ils sont choisis, car ils différencient. Ils différencient par le fait que la recherche, si c'est effectué, changeait d'environnement, ainsi que finalement le support financier pour faire ces recherches. Et vous verrez que dans ces systèmes, il y a des technologies qui sont très bien ciblées et il y a d'autres technologies qui sont nettement plus ambitieuses, ou j'appellerais finalement une avancée technologique. Et enfin, je conclurai par quelques pistes de voir comment on peut écourter le temps et rendre ces technologies ou l'intégration beaucoup plus rapide. D'où, pour commencer, je vais tout simplement vous mettre une photo qui va certainement vous marquer. C'est tout simplement que si on regarde tous les objets qui nous entourent, que ce soit le smartphone, les écrans de télévision et autres, ou les microprocesseurs, eh bien, il faut bien réaliser que toutes ces inventions eh bien, contiennent au moins les découvertes de 20 prix Nobel. D'où le message que je veux vous passer ici, c'est que sans recherche fondamentale, eh bien, il n'y a pas du tout d'innovation technologique. Alors lorsqu'on parle de nouvelles technologies, de quoi parle-t-on? Eh bien, il faut effectivement le relier à la découverte. La découverte, pour moi, c'est la science fondamentale, le silo de connaissances, le savoir. C'est finalement ce qu'on trouve en expliquant comment le monde fonctionne, comment l'être humain fonctionne. L'invention, c'est, je dirais, profiter de ce savoir et créer quelque chose, un dispositif, qui n'existait pas et qui fonctionne, ou oui ou non, peu importe. Et enfin, l'innovation, c'est l'invention qui trouve un marché et que l'on peut utiliser et acheter. Vous voyez que ça se résume relativement simplement. Je définirais que la recherche fondamentale permet de faire des inventions et lorsque celles-ci conquièrent, on part le marché, on part d'innovation et donc de nouvelles technologies. Alors c'est quoi ces nouvelles technologies et est-ce un tel schéma est aussi simple que ça? En effet, on serait tenté de dire que finalement il y a une linéarité entre les connaissances, la découverte, l'invention et l'innovation. Et je dirais que certains des politiques voudraient directement adapter ce modèle. Mais en réalité, cela n'est pas le cas. Il y a une route sinueuse qui va aller des connaissances, de la découverte, à l'innovation. D'où, il n'y a pas de relation linéaire, et si bien la raison, si bien la complexité pour la raison, il y a ce problème de temps. Et de nouveau, vous avez compris déjà que l'innovation technologique, eh bien, ça va être tout simplement une convergence d'un marché et d'une connaissance. Et c'est un peu ce que je vais tout simplement essayer de vous décrire dans cet exposé. Tout d'abord, dans des exemples relativement classiques, ou que vous connaissez certainement, vous avez entendu parler pour sûr, et ensuite sur des expériences personnelles. Tout d'abord, vous avez compris maintenant que le temps est une fonction de l'existence des découvertes, l'existence de savoir et l'identification du marché. Et je vais tout simplement prendre des exemples précis dans l'histoire, dans lequel, d'un cas, il y avait un marché défini, et dans l'autre cas, il n'y avait pas de marché. Bien sûr, l'exemple le plus classique que je vais prendre, c'est tout simplement l'exemple du transistor. L'exemple du transistor est né tout simplement d'une demande du marché. C'est une demande, dans les années 1940 aux États-Unis, lorsque Bell Labs, le père fondateur du téléphone, voulait déployer le téléphone sur le territoire américain. Ça pouvait se faire, mais il manquait une technologie, car à l'époque, j'utilisais des lampes à vide pour directement traiter le signal. Et, bien sûr, le coût, le remplacement, ne permettait pas cela. Et c'est à l'époque un physicien de Bell Labs, qui avait pris la direction de Bell Labs, qui s'appelle Mervyn Kelly, qui a décidé directement que la solution, eh bien, c'était certainement la physique du solide et la physique des semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement regroupé des chercheurs de haute qualité en physique et en chimie pour voir l'apparition du transistor directement dans les années 1947. Et là, c'est les trois personnes qui sont Bardeen, Britton et Schaeffer ont reçu le prix Nobel pour cette invention. Vous avez ici un exemple dans lequel le marché existait et il n'y avait pas eu cette invention. Cette invention a pu avoir lieu, je dirais, dans un temps relativement court, 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout simplement 30 ans ou 20 ans de recherche fondamentale avant cela. Et d'ailleurs, c'était Schaeffer qui avait été interviewé et avait demandé, effectivement, on aurait pu découvrir le téléphone en 1920 si la question nous avait été posée. Donc voilà un exemple de cas où il y avait le marché et la technologie devait arriver. Le deuxième exemple que je voudrais choisir est un exemple qui vous certainement touche beaucoup, c'est l'exemple des télécommunications et le réseau des fibres optiques que vous utilisez actuellement pour votre Internet et tout ça. Là aussi, la fibre optique existait et on voulait faire de la communication à longue distance. Malheureusement, un signal optique, eh bien, il s'amortit avec la distance. D'où il fallait un amplificateur. Et cet amplificateur, jusque-là, est un amplificateur électronique dans lequel vous avez une perte d'énergie lorsque vous transformez du signal optique en signal électrique, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que là aussi, c'est des recherches sur des fibres optiques, notamment au niveau des matériaux, avec ce qu'on appelle l'amplificateur à fibre optique dopé à l'erbium, qui a permis, je dirais, d'augmenter le signal et de faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, on peut avoir des câbles transatlantiques sous-marins de fibre optique, car ils ont développé ces amplificateurs optiques. Et tout ça, eh bien, là aussi, ça a pris 7 ans. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, eh bien, dès que l'invention de l'amplificateur a été faite, eh bien, il manquait encore finalement les lasers, qui étaient trop, je dirais, énormes, et jusqu'à l'arrivée des diodes laser pour faciliter cette télécommunication. Donc voilà l'histoire des télécommunications. Et enfin, vous pouvez avoir, je dirais, des découvertes ou des technologies beaucoup plus rapides, et celle que vous savez tous, qui a stupéfié tout le monde, eh bien, c'est bien sûr le cas du Covid. Ou dans ce cas, eh bien, ce qui était spectaculaire, jamais vu, jamais pensé, eh bien, à un an, des chercheurs ont pu réussir à développer ce vaccin. Là aussi, on peut se dire pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait encore, je dirais, 40 ans de recherche fondamentale derrière tout ça, des gens qui travaillaient sur l'ARN, des gens qui travaillaient sur l'ADN et qui ont permis finalement de développer cela. On vous aurait demandé, il y a cela de 5 ans, de développer directement ce vaccin, cela n'aurait pu avoir lieu. Donc voilà, si vous voulez, l'exemple de cas dans lequel le marché était défini et il a fallu certainement que la découverte ou l'invention se joigne. Maintenant, je vais passer le cas où le marché n'était pas défini. Et là, c'est deux cas intéressants. C'est le cas directement de l'ordinateur personnel et du téléphone portable. Deux choses que l'on prend comme gratuites aujourd'hui. Eh bien, sachez que, tout simplement, il y a de cela 40 ans, lorsqu'on demandait à quelqu'un l'ordinateur personnel, ce que vous voulez, personne n'était intéressé. Pour eux, les ordinateurs, c'était les calculateurs pour l'armée, pour l'industrie, pour les universités. Pour ce qui est du téléphone portable, la même chose, on n'en voyait pas l'utiliser parce que le téléphone portable permettait finalement de relier, je dirais, deux instituts, ainsi de suite, mais on ne le voyait pas comme une facilité personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, comme vous connaissez toutes les histoires, eh bien, Steve Jobs, qui tout simplement a eu la vision de la nécessité de cet ordinateur personnel et qui a pu créer ça relativement vite Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a utilisé une technologie qui était dérivée, qui existait déjà de la part de Xerox. La même sorte pour Nokia, Nokia qui était, je dirais, une motivation double, parce que Nokia, si vous savez, est en Finlande. En Finlande, n'est pas un pays très peuplé, et de mettre des lignes de téléphone fixes, bien, certainement, n'était pas la plus grande solution. D'où, par conséquent, le téléphone portable s'avérait. Et là aussi, eh bien, ce téléphone portable, ils ont bénéficié d'une technologie qui existait déjà, qui avait été mise ou développée dans la ville de New York dans les années 1940, ou de Saint-Louis en 1943, où il y avait un téléphone portable, certes nettement performant que ce qu'on a aujourd'hui, mais il existait. Vous aviez ici le cas, je dirais, d'une identification de marché qui, cette fois, a, je dirais, conduit l'implémentation rapide. Et les temps, dans ce cas, ont été relativement lents. Donc voilà à peu près ce tour d'horizon que je voulais vous donner sur ce qui s'est fait. Maintenant, je vais vouloir partager avec vous eh bien, des expériences personnelles, personnellement vécues, sur le marché de certaines technologies. Et le premier exemple que je vais prendre, je le ferai de façon systématique, vous montrer finalement quelle était la vision, quel était le marché, et ensuite comment, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue fondamental, on a pu y réussir. Le premier, et c'est des recherches que j'ai menées de cela très longtemps, sur ce que j'appellerais la batterie plastique. À l'époque, c'était juste l'arrivée des batteries à ion lithium, de configuration cylindrique ou prismatique, et vu la miniature des objets, eh bien la vision était tout simplement qu'il fallait réduire la taille de ces batteries et faire en sorte finalement qu'on puisse développer des batteries qui s'adaptent aux dispositifs électroniques que l'on veut, qu'on voulait directement mettre en puissance. D'où l'idée de développer cette batterie plastique. Alors cette batterie plastique, c'est la même technologie que le lithium-ion, mais la question c'est comment on va intégrer cette chimie dans une matrice plastique. Et dans ce cas, il y a besoin d'innovation. Innovation au niveau de la membrane polymérique qui doit conduire les ions et du procédé, puisqu'on travaille avec le lithium, on voulait cependant un procédé qui a lieu à l'air. Alors lorsque vous avez une vision, c'est l'expérience, il faut tout simplement la partager. Et souvent, l'importance de partager cela au café, durant les repas, et d'essayer de générer l'enthousiasme de vos collaborateurs. Ensuite, eh bien, s'il y a une vision, il faut créer une équipe. Et pour créer cette équipe, eh bien là aussi, c'est, je dirais, un art de s'entourer des personnes dont vous avez réellement besoin, dont l'expertise est nécessaire. Et pour ce faire, eh bien ici, vous avez certaines personnes. Il y a une personne dont je voudrais directement souligner plus particulièrement, qui est Paul Warren, qui était un scientifique qui avait travaillé à Bell Labs depuis 30 ans et qui avait développé, même inventé, le fil de téléphone que vous avez sur vos téléphones fixes. Il était chef de département, et suite à un repas ensemble, il m'a dit « Je démissionne de mon travail et je viens directement poursuivre avec toi cette aventure. » Et il est venu avec moi, et il a joué un rôle clé, car c'était vraiment le champion du plastique et des polymères. D'où on a tout simplement directement développé cette technologie, je ne vais pas bien sûr aller dans les détails, dont toute l'originalité a été finalement de configurer un polymère qui pouvait accepter finalement les électrolytes et conduire les ions lithium. Et ce polymère, pour la petite histoire, vous êtes certainement connu, c'est un matériau, un copolymère de PVDF HFP, dans lequel on avait chargé de particules nanométriques de CO2 pour directement augmenter l'absorption du liquide. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a été une étape clé. Alors pourquoi voilà le polymère ? Ensuite, il fallait être innovant au niveau du procédé pour qu'on ne fasse pas ce procédé tout simplement dans des salles sèches et ainsi de suite. Pour ce faire, eh bien, on a mis tout un nouveau procédé en jouant tout simplement sur, je dirais, une propriété bien particulière de tous les plastiques qui, pour ceux qui ne le savent pas, tout plastique qui vous entoure contient, je dirais, une quantité de liquide. Eh bien, on a joué sur des réactions d'échange en prenant un solvant et en extrayant ce solvant pour mettre finalement, je dirais, la matière que l'on voulait à la fin, ce qui fait qu'on pouvait faire ce procédé à l'air. Et ce procédé à l'air, eh bien, automatiquement, on pouvait dans ce cas utiliser toutes les technologies existantes des plastiques, comme indiqué ici, avec différents feuillets, différents laminoirs. On pouvait souder directement ces feuillets tout ensemble, comme quand vous allez finalement au lave-linge, vous prenez votre vêtement, vous soudez les trucs. Et on avait tout simplement une matrice plastique dans laquelle on avait mis les matériaux d'électrode. Et on a pu obtenir cette fameuse technologie plastique. Et vous voyez, recherche qui a été commencée dans les années 1989, et qui en 1994, et je me rappellerai toujours, mars 15 1994, eh bien, on est allé directement dévoiler cette technologie au grand public. Et pour cela, comme à Bell Labs, ils étaient des professionnels, eh bien, ils avaient loué un hôtel à Manhattan, qui était le Méridien. D'où cette technologie, qui a été bien sûr très brevetée, a dû passer une étape de certification, pour une assurance extérieure, pour conduire à des applications dans les véhicules électriques, ainsi de suite. Donc, si je regarde finalement le temps d'attente de du concept de la technologie, eh bien, je dirais que dans ce cas, on a commencé cela en 1990, on a vu la première démonstration en 1994, et je dirais la réalité, la commercialisation en 1998, c'est-à-dire 8 ans. Avec bien sûr des recherches une fois de plus fondamentales qui existaient avant dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire? Tout d'abord, le marché est identifié. Aussi, il y avait dans ce cas une prise de risque de l'industriel qui s'était engagé à financer ce projet. Et également, il y avait une prise de risque de l'innovateur, et à titre personnel, je me suis écarté de la scène scientifique pendant 5 ans et n'ai pas publié un seul papier pendant 5 ans. Je prenais un risque, mais le risque en valait la peine. Et qu'est-ce que j'ai appris aussi? Eh bien, lorsqu'on développe une nouvelle technologie, eh bien, des fois, on a la tête trop souvent dans le guidon. On est obnubilé par notre vision et on ne voit pas des technologies alternatives ou dérivées de ce que l'on fait. Et par exemple, dans ce cas, eh bien, le concept qu'on avait développé a été utilisé pour tout simplement fabriquer des séparateurs tricouches et qui sont utilisés aujourd'hui dans la technologie commerciale lithium-ion. Donc voilà, si vous voulez, un peu cette histoire de la batterie plastique que j'ai personnellement vécue. Cela étant fait, les années passées, et dans lesquelles, vous voyez, la batterie plastique maintenant est rentrée dans les graphes, et une autre problématique se posait. On arrivait dans les années 2010, et là, il y avait une sirène d'alarme sur les ressources en lithium. Et le développement durable devenait un objectif planétaire. D'où par conséquent, là aussi, il y avait la naissance d'un marché pour une technologie de batterie plus verte et plus éco-compatible. Cette technologie, eh bien, elle va être dérivée de celle qu'on a utilisée, c'est la technologie sodium-ion. Pour la bonne et simple raison, si on regarde finalement les éléments, la quantité des éléments utilisés, eh bien, on s'aperçoit, comme vous le savez tous, que le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium, tant au niveau de la croûte terrestre que dans les océans. Et c'est ainsi qu'on a tenté de développer cette batterie sodium-ion. Alors bien sûr, ici vous pourriez me dire, rien de bien innovant, puisque Jules Verne avait, de cela presque 130 ans, en 1869, dans son roman « 20 000 lieues sous les mers », avait écrit « Les batteries au sodium doivent être considérées comme les plus énergétiques ». La science-fiction peut-elle être un moteur d'innovation? Je ne sais pas. Je laisserai certainement à mes confrères, qui sont plus experts que moi, de philosopher ou de dialoguer sur ce point. Il n'en est que cette technologie qu'on a lancée en 2010-2012, dans laquelle on a identifié une chimie, a vu le jour dans les années 2020. Pourquoi? Eh bien, là aussi, recherche fondamentale, découverte de nouveaux matériaux, découverte de nouveaux électrolytes, qui ont fait en sorte, finalement, qu'on avait la bonne configuration pour développer cette technologie. En revanche, au contraire de l'exemple précédent, eh bien ici, c'est une recherche qui s'est développée au niveau d'un réseau, au niveau universitaire, et pas au niveau privé, comme il était auparavant, d'où un temps relativement plus long. Si on regarde finalement le parcours, que j'essaie de résumer ici, voilà, si vous voulez, l'histoire du sodium-ion. 2012, départ des recherches. 2015, on a une très bonne conviction sur la faisabilité de cette technologie. Le problème du prototypage se posait, qu'on n'avait pas eu dans l'industrie, car on était directement équipé. Et ensuite, je ne vais pas aller directement dans la partie business, de levée de fonds, et ainsi de suite. Par contre, je voudrais tirer deux messages de cette expérience. Et les embûches. Tout d'abord, en 2016, bien, j'avais présenté cette technologie à des industriels français. Ils étaient trop frileux, ne voulant pas prendre le risque directement de la développer. Ensuite, ayant le produit, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait des difficultés pour lever les financements pour construire une usine. D'où, par conséquent, on est obligé de sous-contracter la fabrication en Chine, d'où je dirais bonjour la souveraineté européenne. Maturation d'une technologie, le temps d'attente, eh bien, effectivement, dans ce cas, c'est un peu différent, car on a profité finalement de toute la connaissance et le savoir sur la technologie lithium-ion. La technologie lithium-ion que vous utilisez aujourd'hui est une technologie qui s'est perfectionnée pendant 25 ans. Eh bien, cette technologie sodium-ion est en train de raccourcir le temps d'intégration de maturation, puisque nous sommes à 10 ans, et je pense que dans 15 ans, on aura certainement, ou dans 5 ans de plus, excusez-moi, avoir ce domaine, ce degré de sophistication. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, et suite à ces travaux, bien, de nombreux groupes au monde travaillent sur le même système, des chimies certainement différentes, mais au sodium, notamment en Chine, avec deux compagnies, CATL et INA, au Royaume-Uni avec Faradion, et aux États-Unis avec Natron Energy. Donc voilà, si vous voulez, la seconde histoire que je voulais vous raconter, où il a fallu, dans ce cas, 10 ans ou 11 ans, pour passer, finalement, de l'idée, du concept, à la technologie. Et enfin, les deux dernières technologies dont je voudrais mentionner avec vous sont des technologies qui sont en cours de développement, qui n'ont pas encore abouti, mais qui, je pense, valent la peine d'être décrites, car vous allez voir, c'est des contextes d'une fois plus différents. La première est tout simplement ce que j'appellerais la batterie intelligente. Et là, vous allez voir que c'est un peu différent, car on veut tout simplement innover dans un domaine, mais les connaissances n'appartiennent pas au même domaine. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, avec notre dépendance croissante sur les batteries, leur fiabilité, avec la volonté de donner une double vie à des batteries, la volonté de pouvoir utiliser notre batterie comme finalement stockage d'électricité sur les grilles, et ainsi de suite, et d'avoir des véhicules plus performants, il nous faut, tout en ce cas, une meilleure traçabilité au niveau du véhicule électrique. Et dans ce cas, eh bien, cette traçabilité, il ne nous la faut pas au niveau de la batterie, comme on sait tous faire dans les laboratoires où on a des techniques analytiques très sophistiquées. Par contre, au niveau du système, eh bien, on est totalement dépourvu, où aujourd'hui, croyez-le si vous voulez, on ne mesure tout simplement que la température pour directement contrôler finalement l'état de la batterie, ainsi de suite. D'où définitivement, c'est là qu'il y a un marché important à satisfaire, et marché finalement qu'on avait identifié dans déjà de cela 4 ou 5 ans. Ce marché, il est identifié par nous, mais également par l'Europe, parce que si vous regardez le cadre législatif de l'Europe, eh bien l'Europe vous parle d'un passeport électronique en 2026. Et ça, c'est un peu des problèmes européens dans lesquels on va faire des législations, mais on n'a aucune idée des technologies qui vont être utilisées pour le faire. Donc, par conséquent, ce qu'on souhaite faire, et voilà les travaux qui sont en cours, c'est tout simplement, on est en train, dans ce cas, de regarder une grande avancée technologique qui n'est pas tout simplement liée à un point bien particulier, qui est la batterie sans contrôle. C'est une approche systémique dans laquelle, comme je vous le disais, eh bien, pour réussir ce projet, il va falloir, je dirais, utiliser un silo de connaissances qui va venir d'un domaine qui est le nôtre, bien sûr, celui des batteries, mais d'un domaine qui va être des interfaces, d'un domaine de l'Internet des objets, voire un domaine de l'intelligence artificielle, pour combiner tout ça et faire, je dirais, la batterie intelligente dont vous parlez. D'où, où en sommes-nous dans ce projet ? Bien, voilà où nous en sommes. Lancé en 2017, du moins l'idée, publiée dans un papier de Nature Material, aujourd'hui a fait son chemin, puisque 5 ans après, je dirais, au niveau du laboratoire, on a développé le concept et, je dirais, la vision de cette batterie intelligente. Mais là, la difficulté pour finir cela, pour conclure, pour transformer l'essai, si je peux dire, eh bien, risque de prendre du temps, car on est dans des domaines différents. Et il y a effectivement un gap entre notre savoir-faire et tout ce qu'on a besoin. Et c'est là où on est obligé finalement d'intégrer d'autres communautés. Et tout ça pour vous dire qu'on s'aperçoit que dans un cas comme celui-ci, eh bien, finalement, une avancée technologique ne peut se faire à l'échelle du laboratoire. Car dans ce cas, il y a tout simplement beaucoup de domaines imbriqués et cela demandera un temps plus long. Donc voilà, si vous voulez, le message qu'on fait, et je vous parlerai à la suite comment on peut réaliser cela. Et enfin, je voudrais terminer sur une autre technologie qui est en train de se développer dans le domaine, car là aussi, elle est riche d'exemples. La technologie qui est en train de se développer, c'est la technologie tout solide. C'est pour quand ? Au niveau du marché, et surtout, c'est vu directement comme le Saint Graal du transport électrique. Car, théoriquement, il n'y aurait plus de problème de sécurité et l'autonomie serait, je dirais, augmentée de 50%. Là aussi, les besoins, ils sont identifiés depuis des décennies. Il y a eu des tentatives des chercheurs, dont des tentatives relativement intenses, de cela 30 ans, mais les innovations ont été infructueuses en raison de verrous fondamentaux sérieux. Et ce qui s'est passé dans le domaine, eh bien, je dirais, là, s'il s'agit d'une découverte pas de longue date, une découverte accidentelle, où des chercheurs ont trouvé une famille de matériaux qui ont des conductivités ioniques, je dirais, excellentes, égales à celles que vous pouvez avoir à le sel de cuisine qu'on mettait dans l'eau et qui à l'état solide. C'est un peu la même histoire, finalement, qui s'est passée dans le domaine des supraconducteurs lorsque, tout d'un coup, un chercheur du Texas a développé un matériau qui allait a mis une température de supraconductivité à 90 degrés K. Et là, eh bien, ça a été l'euphorie grandissante et une mobilisation planétaire. Et je dirais qu'à ce jour, tous les laboratoires, toutes les universités, tous les fabricants de batteries au monde travaillent sur le tout solide. Toutes les institutions, tant au niveau français, européen, financent grandement cette technologie. D'où, on peut se poser quelle est la question de temps. Eh bien là, je vais passer tout simplement sur la courbe classique de développement d'un produit, dans lequel, eh bien, il y a souvent comme ça, il y a l'effet d'annonce, des attentes irréalistes dans lesquelles on croit naïvement que cette technologie va tout révolutionner et ainsi de suite. Et je pense qu'on a passé directement ce maximum. Actuellement, on est en train de retomber dans la vallée où, une fois de plus, on reprend, où on revient, où on reconsidère les problèmes récurrents qui avaient été rencontrés par des chercheurs avant nous il y a de cela 30 ans, notamment au niveau des interfaces, et ainsi de suite. D'où la courbe d'apprentissage, dans ce cas, va être longue, malgré les financements, une fois de plus, gigantesques qui ont lieu. Et c'est la raison pour laquelle la production de batteries tout solides, eh bien, elle prendra certainement 10 à 20 ans. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, le marché est là, il est fort. Par contre, au niveau connaissance, savoir scientifique, il nous manque encore, je dirais, des ingrédients pour réussir à faire cela. Donc voilà, si vous voulez, un peu ces quatre exemples que je voulais vous mentionner pour vous décrire un peu le panorama dans lequel une nouvelle technologie peut se créer, l'environnement scientifique, l'environnement financier et la complexité du problème, si l'innovation est dans votre secteur ou nécessite des connaissances de secteurs divers. D'où, pour terminer, eh bien, je voudrais tout simplement maintenant adresser le problème de comment accélérer les avancées technologiques. Et quand on parle d'avancées technologiques, ce n'est plus à l'échelle d'une batterie, mais c'est à l'échelle d'un système, d'une intégration. Eh bien, je pense que les avancées grandes avancées technologiques seront rendues possibles par les États et l'Europe en assurant le risque, et non pas par les industriels qui se montrent trop frileux lorsqu'il s'agit d'explorer de nouveaux champs. C'est regrettable, car dans le passé, ce sont des compagnies privées, telles AT&T, où j'ai passé quelques années, IBM, Toyota et autres, qui ont été à l'origine de ces grandes avancées. Et bien sûr, si on passe à l'État ou à l'Europe, on peut se poser la question du temps. Et je prendrai l'accélération. Eh bien, l'accélération, elle est variable, et je pense, là aussi, on n'est pas tellement en meilleure mesure de rentrer en compétition avec la Chine au niveau du temps d'exécution. On ne peut pas reprocher à l'Europe et à ses membres de se positionner sur différents projets, en misant, par exemple, sur les ordinateurs quantiques et sur les batteries du futur, via des projets qu'on appelle Quantum ou Batterie 2030. Ces projets rassemble acteurs universitaires et industriels. Et malheureusement, la plupart du temps, ces projets de recherche académie à rupture technologique restent cependant contre-productifs en raison de certains industriels qui sont là plutôt en tant qu'une position d'attente qu'une position proactive. D'où, comment changer cela ? Que faut-il faire, je crois, dans le futur ? Eh bien, il faut renforcer la synergie entre le public et le privé. Il faut faire en sorte, finalement, que cette connaissance scientifique, ce savoir scientifique, interagit fortement avec ces connaissances technologiques. Il faut qu'il y ait cette symbiose, qu'il y ait cette synergie. Et cette synergie, je pense qu'il faudrait finalement, dans nos systèmes européens, d'introduire, de revaloriser cette question d'engineering, qui est bien connue aux États-Unis. Vous avez le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous n'avez pas d'équivalent en France. Et je pense que cet aspect engineering est relativement important. Et enfin, s'il vous plaît, évitez la paranoïa contre-productive de la confidentialité, ce qui paralyse tout développement universitaire industriel. Donc sur ce, eh bien pour conclure, je voudrais tout simplement vous livrer deux réflexions, deux citations ou deux conclusions. Ce sont des citations de personnes, je dirais, très connues, des notoriétés dans le domaine, notamment Stephen Chu, qui était le secrétaire d'État à l'énergie sous Obama, qui est tout simplement renforce la nécessité de ce jeu de ping-pong entre la science, le savoir et la technologie. Et enfin, la dernière, qui est du prix Nobel de Ben Farika pour son moteur moléculaire en 2016, qui écrivait, et je ne peux que partager, le meilleur moyen de prédire une grande avancée scientifique, c'est de l'inventer. Donc je vous laisserai ces deux réflexions de ces grands, je dirais, notoriétés scientifiques pour un peu réfléchir sur la nouvelle technologie et ainsi de suite. Et sur ce, bien, je voudrais vous remercier pour votre attention.